Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire, dans les Alpes du Sud, le dispositif Inter-IM propose une formation inédite pour une meilleure insertion à l'emploi. Le reportage d'Odile Frison dans ce magazine. L'association des maires des Alpes de Haute-Provence signe une convention avec les buralistes. C'est la reconnaissance des services de proximité qui vont au-delà de la simple vente de tabac. Le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. Quelle est la place de la santé dans notre pays? Nous écouterons la deuxième partie de l'interview de Rémi Charpie pour la Mutualité française. L'association des nuits photographiques de Pierre Vert a tenu son assemblée générale. 2021 fut une excellente édition. Le festival continue sa progression. Nous entendrons Sandra Faure et Stéphane Kosman. Un peintre chinois habitant Forcalquier expose au musée de Salagon. Des détails dans ce magazine avec le reportage de Mathieu Marc. Enfin, notre ami Chris Alessandri nous emmène à Ganagobie en Haute-Provence en compagnie du majoral du Félibrige, Michel Benedetto. Inter-IM 0405, l'entreprise est apprenante et solidaire.
C'est la dynamique engagée par Inter-IM dans les Alpes du Sud avec ses partenaires, la Ligue de l'enseignement 04 et l'AECD, l'Association pour l'éducation cognitive et le développement. Le Greta CFA Alpes-Provence propose un environnement de formation inédit où l'entreprise devient apprenante et solidaire. L'objectif est une meilleure insertion à l'emploi et des projets durables pour tous. Coordinatrice d'Inter-IM 0405, Christelle Mazoyer, présente ce dispositif de préqualification et d'accompagnement à l'insertion professionnelle au micro d'Odile Frison. Elle explique la signification du IM d'Inter-IM. Christelle Mazoyer.
Inter-IM, ça veut dire solution intermédiaire immersive. C'est un dispositif de préqualification et d'accompagnement à l'insertion professionnelle, d'où le terme intermédiaire, en fait, qui veut dire que on va rechercher des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour les amener vers un projet professionnel durable. Et l'adjectif immersive signifie qu'on va les mettre en situation professionnelle dans ce qu'on appelle l'entreprise apprenante solidaire.
Ce dispositif est lauréat de l'appel à projet du pacte régional.
Voilà, c'est un dispositif donc qui est financé et promu par Pôle emploi, qui existe au Greta, donc qui est porté par le Greta, mais avec un groupement. Donc nous sommes trois partenaires à travailler sur ce dispositif. Le Greta CFA Alpes-Provence, la Ligue de l'enseignement dans le 04 et l'AECD dans le 04 et le 05. Puisqu'en fait, nous avons 6 agences intérim sur le groupement. C'est un dispositif donc qui existe depuis 1 an et demi maintenant, qui est en entrée et sortie permanente, dont l'objectif est vraiment de faire un accompagnement global des personnes. Donc, quand les gens viennent sur intérim, ils vont travailler plusieurs choses. Ils vont travailler la construction d'un projet professionnel. Ils vont travailler des compétences transversales qu'on appelle des compétences socles avec le référentiel CLEA, qui sont en fait des compétences qui sont demandées aujourd'hui par tous les employeurs. Et c'est d'ailleurs un référentiel qui a été créé par l'ensemble des branches professionnelles pour définir une sorte de seuil de compétences de l'employabilité. Ils vont travailler également des savoir-être professionnels dans ce qu'on appelle les compétences douces, comme par exemple la rigueur, l'adaptabilité, la confiance en soi. Et ils vont également être accompagnés, pour ceux qui en ont besoin, par un médiateur qui est un poste spécifique nouveau dans la formation professionnelle, puisque le dispositif intérim, c'est un dispositif financé par la formation professionnelle et de formation professionnelle, c'est-à-dire que les personnes sont stagiaires de la formation professionnelle. Donc, ces personnes vont monter en compétences pendant le dispositif. et elles vont être accompagnées. Je reviens donc sur cette fonction de médiateur, qui est un travailleur social et qui va travailler avec eux sur toutes les difficultés qui pourraient les freiner à la fois dans leur parcours sur intérim et à la fois dans leur projet professionnel durable. Les candidats, quand ils arrivent dans intérim, vont tout de suite intégrer un service et participer à des missions qui vont servir l'ensemble des stagiaires qu'on appelle des agents pour aboutir à un objectif collectif qui est la construction d'un projet professionnel pour tous et le placement donc à la sortie du dispositif soit en emploi, soit en formation qualifiante ou professionnalisante, puisque l'idée c'est vraiment d'aller sur quelque chose de durable et pas uniquement de saisir des opportunités d'emploi. Donc on a 90% des personnes qui sortent en formation. C'est un accompagnement vers l'emploi, mais vraiment l'atout du dispositif, c'est la capacité à s'adapter aux besoins de chaque individu. Donc les personnes qui candidatent, elles vont être orientées par les prescripteurs institutionnels comme Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, et aussi par tout un réseau de partenaires créés autour d'intérim, partenaires sociaux, mais aussi partenaires économiques. Et vont candidater sur le dispositif, elles vont d'abord rencontrer ce médiateur qui va faire un premier diagnostic. Et ensuite, ils vont rencontrer le coordinateur pédagogique qui va faire un diagnostic pédagogique. Le médiateur, lui, va faire un diagnostic social. Donc, ça nous permet de rentrer dans un accompagnement global, mais autour d'une formation. L'idée, c'est vraiment de créer les bases pour construire ce projet professionnel durable qui fait aussi partie du parcours du candidat dans intérim. On peut avoir des parcours courts comme des parcours longs. On peut avoir des parcours de 1 mois jusqu'à 1 an de parcours. On va avoir des personnes, par exemple, qui vont avoir besoin de régler des problématiques périphériques, sociales, avant d'être en capacité de travailler leur projet professionnel, par exemple. Donc, c'est des parcours qui peuvent être plus longs. Et puis, il y en a d'autres qui auront moins de difficultés, qui vont aller plus vite ou qui ont déjà une idée du projet quand ils arrivent sur un intérim et qui ont seulement besoin de le consolider. Donc une adaptabilité au niveau de la durée du parcours et aussi une adaptabilité au niveau de ce qu'on appelle l'intensité hebdomadaire, c'est-à-dire le temps de formation pendant la semaine. On peut aller de 20 heures à 35 heures. Donc on va s'adapter à tout type de situation. Ça peut être une problématique de garde d'enfants, la personne ne peut pas venir le mercredi. On peut tout à fait adapter son parcours sans qu'elle vienne le mercredi. Ça peut être des personnes qui ont des rendez-vous thérapeutiques dans l'après-midi. Ça peut être des difficultés de tout ordre en fait. L'idée c'est vraiment d'adapter. Et ce que nous disent les partenaires sociaux aujourd'hui, c'est que ce qu'ils apprécient dans le dispositif, c'est qu'on ait le temps en fait d'accompagner les personnes sur ces différents niveaux qui sont le projet professionnel, l'acquisition de compétences transversales et les savoir-être professionnels.
C'est gratuit pour la personne qui est en recherche d'emploi ?
Tout à fait. Alors, le coût de la formation est pris en charge par Pôle emploi et financé par Pôle emploi. Et toutes les personnes ont une rémunération de formation pour ce dispositif, qui est aussi un financement de Pôle emploi.
Ce dispositif s'adresse à tous ceux qui sont inscrits à Pôle emploi ?
Voilà, alors les seules conditions en fait qu'on ait à respecter pour intégrer une personne sur intérim, c'est qu'elle soit inscrite à Pôle emploi et qu'elle ait un niveau de formation infra 4, c'est-à-dire inférieur au bac. On ne peut pas prendre des personnes qui aient acquis le bac, par exemple, puisque c'est un financement qui est destiné aux personnes qui n'ont pas de qualification. Sur l'ensemble des agences intérim 0405, on a des agents, l'âge varie entre 16 et 61 ans. Donc ça, c'est une grande richesse d'intérim. On a une grande diversité de profils. Ça en fait aussi toute la richesse, puisque quand on a parlé tout à l'heure d'entreprise apprenante solidaire, l'aspect solidaire, c'est aussi parce qu'on va aller rechercher les atouts de chacun pour qu'il puisse les mettre à disposition du collectif. Je vais vous donner un exemple concret. On a sur une agence une personne qui a des compétences mécaniques. Il a organisé pour les autres agents, il a préparé pour les autres agents un atelier qui leur permet d'identifier les points de vigilance, par exemple quand ils vont demander une réparation chez un garagiste ou comment faire soi-même des réparations. Donc lui, quand il prépare son atelier, il va monter en compétences, puisqu'il va imaginer la façon dont il va transmettre ses connaissances et il va apporter quelque chose à l'ensemble du collectif. Ça, c'est vraiment une des richesses également d'intérim, c'est que à l'intérieur de ce dispositif, on a une grande liberté en fait de créer des projets qui peuvent être amenés, qui sont amenés par les agents.
partenariat gagnant-gagnant entre buralistes et maires du 04.
Historiquement vendeurs de tabac, les buralistes ont vu leur métier évoluer avec des prestations diverses. Encaissements fiscaux, services postaux, presse aussi parfois, et même épicerie dans des villages. Ils sont un commerce de proximité où le contact buraliste-client est essentiel. C'est pourquoi jeudi dernier, en mairie de Sisteron, avait lieu la signature d'une convention de partenariat entre l'Association des maires des Alpes-de-Haute-Provence et la Confédération départementale des buralistes, un partenariat entre les deux entités dont l'objectif est de faire vivre au mieux les territoires et apporter à leur population les services publics nécessaires à la vie quotidienne via un panel d'outils modernes visant à réduire la fracture numérique en ayant des relations étroites grâce à de nombreux services mis en place. Président de la Confédération nationale des buralistes, Philippe Coy, puis Nicolas Laugier, président de l'Association des commerçants sisteronnais et qui connaît fort bien ce métier, et enfin Daniel Spagnou, maire de Sisteron et président de l'ADM 04, répondent aux questions de Chris Alessandri.
Dans cette convention, c'est que les collectivités puissent se rapprocher de notre réseau. Dans le département, il y a 91 buralistes, il y a plus de 160 communes et je crois que aujourd'hui, l'aménagement de territoire passe par une concertation de services. Le buraliste est un préposé du service public. Nous efforçons de développer, que ce soit les services d'encaissement des fiscalités du quotidien, des services postaux, des services colis. Tout cela contribue à un aménagement du territoire et nous avons besoin de travailler dans cette concertation avec les populations, les élus, pour développer encore plus de services et être en adéquation, je dirais, avec peut-être les nouveaux habitants que votre département accueille.
Ce lien, vous le sentez au quotidien ? De quelle façon il se manifeste sur le terrain ?
Vous savez, le réseau des buralistes accueille au quotidien nationalement 10 millions de Français, donc c'est vraiment un réseau de proximité, de confiance. Souvent, on nous détermine comme un tiers de confiance dans notre exercice au quotidien. On vend du tabac, c'est notre métier historique, on en est très fiers, mais nous sommes aussi un relais social, un relais bancaire, puisque nous sommes la première néobanque française, un relais du service public. Donc, cette relation de confiance permet d'imaginer et d'avoir de l'audace sur des services que nous devons déployer. On parle de fracture de territoire, on parle de fracture du numérique. Nous pouvons être ces tiers-lieux qui rend le service du quotidien.
Il faut être constamment à l'écoute et anticiper en fait.
Nous connaissons nos clients, mais justement accompagnés également par les chambres de commerce dans le plan de transformation que nous avons initié il y a maintenant 4 ans, ça permet d'avoir une bonne lisibilité des attentes et tous les territoires aujourd'hui accueillent des néo-habitants comme on dit, et qui a besoin de nouvelles offres, de nouveaux usages, que tout cela est fait par un assemblage d'études qui permet de répondre au point par point. Il n'y a pas d'uniformisation du réseau des buralistes partout en France. Votre territoire est un département rural, il faut le considérer, il faut l'accompagner et c'est un des rôles aussi du réseau des buralistes et de la Confédération.
Ce territoire, est-ce qu'à vos yeux, il peut avoir un côté expérimental, par exemple ?
Il a un côté expérimental, puisque depuis quelques semaines, justement, sur le département, une expérimentation est lancée à travers le distributeur automatique de billets que nous mettons en place avec le partenariat Loomis. C'est donner, là aussi, une réponse à une attente des populations et des consommateurs du retrait d'argent qui, malheureusement, aujourd'hui, se fait rare dans nos territoires. Deux buralistes de ce département ont aujourd'hui, notamment ici à Sisteron et à La Brianne, une expérimentation avec le groupe Loomis. Un distributeur installé à l'intérieur de leur établissement, vu que l'amplitude horaire est large. On verra dans quelques semaines les résultats, mais je souhaite que cette expérimentation soit concluante pour la développer nationalement.
Nicolas Laugier, que représente pour vous cette signature, cette convention ici aujourd'hui signée à Sisteron ?
C'est un honneur de signer cette convention et de participer à la signature de cette convention pour moi, puisque en tant que président de l'organisation professionnelle des marchands de journaux de la région sud-est, c'est une grande importance, les liens qui sont tissés entre les tabacs et les presses, qui sont, comme ça a été rappelé par le président national et monsieur le maire de Sisteron, souvent le dernier commerce de proximité dans les villages ou même dans les petites villes de notre département rural. Donc c'est très important que les élus locaux et les professionnels se lient pour unir leurs efforts et soutenir vraiment toutes les initiatives possibles pour conserver un maximum de services dans nos communes. Je dirais tout simplement que le lien social avec la population qui est notre clientèle, qui est vraiment très important à mes yeux, puisqu'après la crise Covid, on a pu voir que ce lien social est très important. Le contact avec son commerçant de proximité, son commerçant de quartier est très important. Donc ça, c'est déjà le premier lien qui est qui est très important. Le social, c'est la vie d'un village, c'est la vie d'une ville, donc c'est pour, à mes yeux, le plus important. Et puis après, bien entendu, accueillir un maximum de services à travers nos commerces de proximité pour rendre un maximum d'utilité, je dirais, à la population et de services à nos communes, et notamment, par exemple, aux mairies, entre autres, comme il a été exposé dans certaines communes où c'est qu'il n'y a plus de distributeurs de billets, ça serait bienvenu qu'on puisse équiper les buralistes ou les presses, j'oublie pas aussi mon métier de cœur, d'un distributeur qui rendra de grands services à tout le monde, aussi bien la collectivité que la population. Donc voilà le style de lien qui est très important entre les élus locaux et le commerce de proximité, notamment les buralistes et les presses aujourd'hui. Sans oublier, donc, en tant que président de Culture Presse, des marchands de journaux de la région sud-est. Tout à l'heure, le président Philippe Cohen National a parlé de drugstore, de commerce de proximité pour les buralistes. Et moi, j'aime bien dire aussi que les maisons de la presse et les presses dans les villages sont le premier commerce de proximité culturel. Quand je parlais de lien social, la culture en fait partie.
Daniel Spagnou, cette convention qui a été signée, vous y attachez énormément d'importance et vous l'avez dit.
Oui, parce qu'elle fait partie de l'attractivité des territoires, elle fait partie des services de proximité que l'on veut mettre en place dans les territoires ruraux, puisqu'un buraliste, maintenant, il a pour mission aussi de rendre service à tout le monde. Et souvent, dans certaines communes rurales et de montagne, il n'y a plus qu'un buraliste, parce que le buraliste, en même temps, il fait un petit coin épicerie, il fait un petit coin où on peut boire un café, donc il crée la vie dans le village. Alors, un moment où de plus en plus de citadins viennent s'installer chez nous, notamment à la retraite, il faut qu'on ait aussi un minimum de services publics, autrement ils ne resteront pas. Parce qu'on vient, on découvre nos beaux paysages, notre beau ciel bleu, puis très vite, au bout de 2-3 mois, on se rend compte que certains villages n'a plus rien. Et on vient réclamer au maire, et le maire est impuissant. Donc petit à petit, grâce à des actions comme celles qu'on vient de signer, eh bien, on redonne vie dans les territoires. Moi, je ne peux que me réjouir, d'autant plus que la bonne nouvelle qui a été annoncée aussi, c'est qu'ils vont mettre des distributeurs de billets. Là où il y a un buraliste, il pourra demander un distributeur de billets. Ça, c'est formidable, parce que là aussi, les banques se sont désengagées de partout. Et c'est un service qui est des plus utiles. Voilà, donc c'est une convention gagnant-gagnant, donnant-donnant, et j'espère qu'elle sera bien appliquée. En tous les cas, je suis persuadé que les maires l'apprécieront.
Quelle place pour la santé ?
Deuxième partie de l'interview de Rémi Charpie pour la Mutualité française à propos des questions aux candidats à l'élection présidentielle et aussi aux législatives. Il aborde les questions d'accès aux soins, d'aide aux aidants, les missions et rôles des agences régionales de santé, les téléconsultations, le manque de médecins, notamment des psychiatres, la réforme des soins palliatifs, etc. Autant de questions aux candidats le 1er mars au Palais d'Iéna à Paris, où les mutualistes espèrent la présence des principaux concurrents. Et d'abord, il évoque les centres de santé, propos recueillis par Odile Frison. Rémi Charpie.
Les centres de santé, ce sont des médecins qui sont là aussi, mais ce sont des médecins qui vont sur une activité salariée. Les centres de santé, c'est plus du registre des mutuelles. Voilà, on va le dire comme ça, même s'il y a des communes qui mettent ça en place aussi. Rendre la santé accessible pour tout le monde, inclusive et protectrice du bien-être physique et psychique, bien sûr. Ça pose la question de la prise en charge de toute la santé mentale. C'est-à-dire que ça va de la déprime que l'on peut avoir entre tous, ou alors des maladies psychiques qui demandent des soins de longue durée, qui demandent des prises en charge auprès de jeunes enfants, auprès d'adultes. Et là, on n'est pas encore vraiment au niveau, même si on a un certain nombre d'institutions qui travaillent bien. Lorsqu'on est en difficulté, difficile de trouver un psychiatre. Donc ça, c'est une denrée rare aussi dans notre département, puis pas que dans le nôtre d'ailleurs. Alors là, il y a eu une évolution, c'est la possibilité pour les assurés de prendre contact avec des psychologues qui ne sont pas directement des psychiatres, mais qui savent déjà apporter des premières réponses et réorienter aux besoins. Et la grande nouveauté en 2022, après une expérience pratiquée dans certains départements, c'est que la Sécurité sociale prend en charge une partie de la consultation, ce qu'avaient fait aussi les mutuelles. Et là, maintenant, pour la plupart des mutuelles cette année, en plus de la Sécurité sociale, il y a donc une prise en charge de consultation jusqu'à une hauteur de 10 par an. C'est un plus, mais c'est un coût aussi. Au niveau des solidarités, on dit que là aussi, on doit retravailler un peu, puisque même si on a un système de soins qui est protecteur aujourd'hui, mais il est aussi créateur d'inégalités. Donc, réinventer des solidarités, c'est travailler auprès des jeunes pour leur permettre d'avoir un logement, pour accéder aux soins, parce que ça, c'est pas rien. Et le logement, ça fait partie de la santé, dans tous les cas, si on est dans une politique de prévention. Pour les personnes âgées, Bon, avec ce qui se passe dans un groupe qui gère des EHPAD, là, c'est déplorable. Bon, il faut travailler pour que les personnes âgées elles puissent vivre dans les bonnes conditions dans des EHPAD. Alors, dans nos départements, les choses vont bien, hein, on n'a pas de retour comme ça, mais ce n'est peut-être pas encore suffisant. Il faut permettre aussi à ceux qui le veulent de pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible. C'est de développer l'hospitalisation à domicile, ça existe aussi. Il y a du bon en la matière, mais alors que le gouvernement s'était engagé à mettre en place une cinquième branche pour les personnes âgées ou pour l'autonomie. Alors c'est bien sur le papier, parce que là-dessus on peut applaudir, mais par contre en termes de financement derrière, il n'y a rien du tout. Et puis quand on parle d'inclusion aussi, c'est de travailler sur les aidants, les personnes qui ont à charge une personne handicapée ou une personne âgée ou des enfants en souffrance ou un conjoint ou une conjointe. Ben, ils ont besoin à un moment donné d'être soulagés. Quand on est aidant, c'est prenant, c'est lourd, c'est fatigant, et puis on sait qu'on tient pas à la durée. Donc là, il y a sans doute des choses aussi à réinventer. Travailler sur la mixité en matière de logement, mettre des anciens avec des jeunes, avec aussi des personnes handicapées. Puis, il y a des choses qui sont pensées dans le département, notamment je pense au projet en rue sur Manos, c'est les choses que je connais mieux. Ce sont des projets qui sont extrêmement intéressants. Et puis pour imaginer et mettre en œuvre des solutions pour demain, là aussi il y a des choses dans le département qui se sont faites. Il faut vraiment travailler sur la démocratie sanitaire. Alors, il existe aujourd'hui des instances qui permettent de travailler cette dimension. Alors c'est le Conseil territorial de la santé qui est piloté par l'ARS. Alors pour nous, l'ARS, bon, il faut absolument revoir ses missions afin qu'elle ne soit pas qu'un bras armé gestionnaire pour dire à tous ceux qui reçoivent des subsides de l'État, ben voilà comment il faut faire, ou alors ben, si vous pouvez pas le faire, ben il faut vous en passer. Bon, je caricature un peu volontairement. Il faut absolument revoir les rôles des ARS, et comme ça a commencé à être vu l'année dernière, ou maintenant au niveau des régions et travailler avec les régions politiques, il faudrait les mêmes choses au niveau des départements, parce que ce conseil territorial de la santé est représentatif des problématiques qui peuvent être posées en termes de besoins de santé, puisqu'il y a à la fois l'ARS, d'autres services de l'État, des soignants, des représentants des élus, des représentants d'associations, des représentants de la mutualité. C'est eux qui sont sans doute le plus eux-mêmes de faire un état des lieux et puis de rechercher des solutions en commun. Et après, le rôle de l'ARS, ça devrait être de dire, bon, ben voici les moyens qu'on peut y mettre, voici comment on peut travailler. Alors, on sait qu'on ne va pas régler toutes ces questions-là juste comme ça, en peu de temps, puisque ben, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de dentistes, le numerus clausus, il est là. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir à l'attractivité, pas obligatoirement à la contrainte pour s'installer, mais dire, bon, comment fait-on ensemble? Bon, ce lieu-là, c'est vraiment une instance où la démocratie sanitaire peut vraiment jouer son rôle. Et il y a des choses qui ont été faites intéressantes sur les deux dernières années, parce qu'il faut dire les choses intéressantes aussi qui se font, hein, autour de ce Conseil territorial de la santé. Il y a eu le projet Territoire Santé Mentale qui a conduit une trentaine ou une quarantaine de personnes à réfléchir sur un projet Territoire Santé Mentale. Donc ça, c'est bien, avec des fiches qui ont été faites, avec une option qui est de dire, bon, voici nos moyens, on n'abandonne rien sur le fond en termes de, je ne veux pas dire de revendication en termes de besoins, mais c'est ça. Mais par contre, en attendant que les choses ou s'améliorent ou s'enregistrent ou soient modifiées profondément, il y a moyen de travailler ensemble pour être le plus efficace possible, rechercher un peu l'efficience. Et il a été fait un même groupe de travail, l'initiative de Madame Bagary, hein, il faut le souligner. Après le Ségur de la santé, il y a eu un Ségur qui a été organisé à sa demande, mais qui était très pragmatique, qui réunissait ben, des élus, des associations, des mutualistes, il y avait l'hôpital qui était représenté aussi, la sécurité sociale, la CPAM. Et puis donc, il y a vraiment eu une réflexion pour dire, bon, comment fait-on, comment travaille-t-on ensemble pour permettre l'accès à la santé au plus grand nombre? On se retrouve avec des personnes qui se disent, bon, on se prend en charge. Voici les moyens que l'on a à disposition aujourd'hui. Ils sont pas satisfaisants. Ça va pas se régler comme ça. Je le redis à nouveau, nous n'abandonnons rien sur le fond. Mais par contre, à nous de travailler ensemble en mettant tous les acteurs de la santé autour de la table, notamment autour de la commission territoriale des personnels de santé. Ce sont des territoires à l'échelle des agglomérations, on peut dire, qui permet à tous les soignants ou à tous les acteurs de la santé de se retrouver pour définir au mieux les conditions d'accès et les parcours de santé. Voilà les choses sur lesquelles nous sommes attachés. Et puis, dernier point, sur lesquels on interrogera aussi les candidats. C'est ce qui va se passer le 1er mars. Et nous, au niveau des départements, on va essayer de rencontrer les principaux pour leur dire que faites-vous, les représentants. Donc, notre dernière proposition, c'est de travailler sur la recherche de nouveaux droits dans le respect des règles éthiques, en accordant une place importante à la société civile. Alors, quand on dit ça, bon, c'est des bien grands mots, mais derrière, il y a les soins palliatifs. Ça, c'est important. Le droit à mourir dans la dignité. Alors, il y a déjà des choses qui existent, mais qui sont sans doute à parfaire. Ce sont les données numériques. Comment est-ce qu'elles sont traitées? Vous avez vu que récemment, il y avait un endroit où des hackers, ils ont pu saisir des numéros de médecins et produire presque 70 000 passes sanitaires. Bon, ça veut dire que ça pose un problème de sûreté, quant à ça. Donc, il y a des choses à travailler là-dessus. Pour travailler aussi sur l'intelligence artificielle en matière de prévention, de soins. Il y a ce qui se met en place en termes aussi de santé. C'est-à-dire avec les nouveaux métiers qui sont en place, notamment. Donc là, on pense aux infirmières en soins avancés, c'est ce qu'on appelle les pratiques avancées, c'est-à-dire où les médecins délèguent une partie de leur mission dans un cadre bien entendu. Et donc, il peut y avoir des photos de prise, des renseignements envoyés par téléphone, par exemple, avec un portable ou avec un ordinateur, et ensuite des médecins qui examinent les choses. Donc, cette téléconsultation, c'est là aussi, ce sont des choses importantes. La plupart des mutuelles, d'ailleurs, le proposent, la téléconsultation, là. Là où c'est juste un soignant qui est au téléphone et puis qui enregistre les premières plaintes ou qui peut, à partir du diagnostic qu'il peut faire, renvoyer ensuite sur des spécialistes ou d'autres médecins qui prendront en charge les personnes. On a plein d'éléments sur lesquels travailler et vous voyez que lorsque les candidats à la présidentielle ou aux législatives vont se présenter, il faudra qu'ils puissent nous apporter des réponses concrètes.
Excellent cru de Pierre Vert pour les nuits photographiques.
L'édition de 2021, 13e du nom des Nuits de Pierre Vert, a recueilli un grand succès. Le festival photographique est désormais dans la cour des grands, comme l'a souligné le président Stéphane Kosman lors de l'Assemblée Générale de l'association. Une montée en puissance depuis quelques années déjà et une renommée qui s'affirme un peu plus à chaque édition. Conçu par des photographes eux-mêmes il y a 15 ans, le secret de la réussite réside dans la proposition artistique toujours de haut niveau, et l'accueil exceptionnel des habitants de Pierre Vert qui ouvrent leur maison aux invités du festival, à tel point que des amitiés se nouent et que certains veulent revenir chez leur hôte d'un été. L'événement est bien soutenu par la DLVA notamment et bénéficie des aides logistiques importantes de l'agglomération et de la commune, et également des sponsors tels le Crédit Agricole qui soutient les nuits depuis le début. 2021 a été marqué par la progression de la muséographie. La double exposition de Vincent Munier à Manosque, à la Fondation Carzou et au Centre Giono, ayant reçu plus de 6000 visiteurs et 750 scolaires. La vente des affiches de l'exposition a connu un beau succès également. La fameuse Panthère des Neiges est désormais dans bien des foyers. Cet été, Pierre Vert vibrera encore au rythme des expositions, rencontres et projections. Et si le programme est encore en gestation, on sait que des photographes de Selma aux États-Unis et d'Essaouira au Maroc seront présents et qu'un hommage sera rendu à Jules et Edgar Imbert qui ont œuvré en images voilà des décennies. Leurs travaux sont liés historiquement à Pierre Vert et à leur temps. Tous deux étaient militaires au tout début du XXe siècle et ont photographié la Tunisie, l'Algérie ou le Tonkin au gré de leur carrière. Si Edgar meurt au front en 1915, son frère Jules vivra 50 ans de plus et photographiera son village d'adoption, créant une photothèque ethnographique, sociale et artistique de premier ordre. Écoutons le président des Nuits, Stéphane Kosman. Il évoque les invités américains de 2021 ainsi qu'un stage fructueux entre des jeunes filles de région parisienne et des jeunes du village. Mais d'abord, la vice-présidente de la DLVA, Sandra Faure, qui a assisté à l'Assemblée Générale de l'association en compagnie de Claire Zara, nouvelle directrice du service culturel. Sandra Faure, vous êtes vice-présidente de DLV Agglo et votre agglomération soutient bien sûr les nuits photographiques de Pierre Véran.
Bien sûr, un grand festival, on se doit de les soutenir et c'est avec beaucoup de bonheur que l'on continue à le faire encore cette année et pour longtemps évidemment, je n'en doute pas.
Ce qui vous intéresse, on vous a vu bien sûr pendant le festival plusieurs fois, ce qui vous intéresse c'est la fréquentation des photographes, des artistes, des acteurs locaux qui dynamisent ce festival.
Oui, et aussi le rayonnement que peut avoir le festival, notamment sur le territoire. Et c'est vrai que ça passe en effet par les photographes, mais par tout ce que ça va pouvoir apporter au sein de l'agglomération en termes d'événements, comme par exemple l'exposition qu'il y a eu sur Vincent Meunier à la Fondation Carzou et au Centre Junot. Le rayonnement est aussi hors Pierre Vert. C'est ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ce festival.
Alors vous venez de parler de la Fondation Carzou. On rappelle que la Fondation Carzou va être sous régie de la DLVA. Donc cette coopération avec les nuits photographiques de Pierre Vert va perdurer.
Oui, elle va perdurer. Lorsque la dissolution sera actée, donc on va reprendre en régie la Fondation. Et de ce fait, oui, on s'engage évidemment à maintenir ce partenariat et pouvoir mettre à disposition les salles pour l'exposition justement qui a lieu en amont du festival.
Alors je vais vous demander quel regard vous portez, mais non pas sur des photographes, mais sur l'équipe des nuits photographiques où beaucoup de bénévoles travaillent et amènent un plus à ce festival.
Ce qui m'a surpris dès le départ, c'était l'importance justement qu'avaient les bénévoles dans ce festival-là, et on l'a encore rappelé ce soir lors de l'Assemblée Générale. Sans la passion de ces gens, le festival serait peut-être pas là ou serait sûrement pas le même, ni de cette envergure, et c'est ce qui en fait sa force et sa beauté aussi, c'est de voir tous ces gens passionnés qui vont ouvrir leur maison, qui vont accueillir les photographes. Je pense que c'est assez unique et c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce festival.
Et le premier de ces bénévoles, c'est bien sûr le président de l'association, Stéphane Kosman. Cette édition 2021, elle restera gravée dans les mémoires.
Elle restera gravée puisque Vincent Meunier, pour ne pas le citer, était présent, ce qu'il fait assez rarement dans les manifestations du genre festival où il se fait extrêmement discret, hein, puisque c'est sa façon d'être. On a eu la chance de l'avoir avec nous cette année. C'était un moment très privilégié.
Et puis évidemment, tous les autres photographes qui sont venus à Pierre Vert, et notamment des jeunes filles venues de Fresnes.
Tout à fait. Au cours de l'édition 2020, nous avions eu la chance d'avoir un des acteurs du film Les Misérables, Almami Kanouté. Les jeunes du village de Pierre Vert ont reconnu ce personnage. De là, on est venu une invitation à quatre jeunes femmes de la banlieue parisienne, de Fresnes, qui se sont déplacées et qui ont découvert notre festival et aussi qui ont changé de quotidien et entrepris un travail photographique avec les jeunes du village. Là, on travaille sur l'inverse, c'est-à-dire que ces jeunes se rendent en banlieue parisienne pour réaliser un travail photographique.
Et puis, il y a d'autres visiteurs qui sont venus. Évidemment, c'est les petites sœurs du Festival de Pierre Vert. Autrement dit, le Festival des Saouira au Maroc et puis Selma aux États-Unis.
Tout à fait. Nous avons reçu la cofondatrice du festival, Joanne Blind, qui venait de Selma avec sa meilleure amie, Tracy. Et nous avons aussi eu le plaisir d'avoir en avance le parrain du Festival de Selma, Frank Jackson, et la lauréate du prix du public, Sydney Foster, qui est venue en résidence. Donc on a eu la chance cette année d'avoir une partie de l'équipe de Selma, une partie de l'équipe des Saouira. Et puis, il faut aussi le rappeler, on a sur scène, on a fêté les 90 ans de Peter Knapp avec beaucoup, beaucoup d'émotions puisque Peter était le premier de parrain du festival il y a 13 ans. C'est lui qui nous a dessiné notre logo et c'est lui qui nous a permis d'avoir Oliviero Toscani ou encore Steve Hyatt et d'autres personnes, d'autres grands noms de la photographie. Je soulignerai que Sabine Weiss nous a quittés. Sabine était avec nous, avec Peter Knapp, lors de la première édition. Donc ça a été, voilà, c'était un gros, gros festival cette année. Ouais.
Alors, c'est peut-être pas l'heure de donner quelques noms, mais je sais que vous avez ramené des États-Unis, Selma, vous y étiez au mois de novembre dernier, Stéphane, quelques noms déjà de photographes américains.
Alors, on aura la chance d'avoir avec nous Greg Hatton, qui est un relativement jeune photographe, il y a une quarantaine d'années, et qui est de Los Angeles. Et lui est un ambassadeur Leica, pour ceux qui connaissent très bien cette marque d'appareils photo. Et on aura aussi une jeune photographe d'Atlanta, Courtney Iman, qui viendra nous proposer ses images en studio.
Et Frank Jackson qui revient également.
Frank, évidemment, là, je crois que Frank il sera là avec nous pendant les 10 prochaines années, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, on a un projet, on va en parler un petit peu plus tard, mais nous allons donner un stage ensemble avec Franck cet été.
Voyage en peinture à Salagon, de la Chine à la Haute-Provence.
Le sommet Vibration de lumière, c'est le titre de l'exposition de Feng Jie, artiste peintre originaire de Chine et aujourd'hui basé à Fort-Calquier. Il a commencé dans l'art par la calligraphie dès l'adolescence avant de se consacrer à la peinture. Ses toiles sont inspirées des paysages de Haute-Provence, de Fort-Calquier au plateau de Valensole en passant par Briançon. L'exposition est à découvrir dans l'église du musée de Salagon à Mannes. Antonin Chabert, directeur du musée, présente cet événement que le public peut découvrir jusqu'au 20 juin 2022. Il répond aux questions de Mathieu Marc.
Donc Feng, c'est un artiste qui est originaire de Chine, qui s'est installé à Fort-Calquier en 2013, qui a été formé aux Beaux-Arts à Marseille. Et ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, c'est le rapport qu'il entretient avec les paysages locaux, les paysages de la Haute-Provence, et comment il est vraiment à l'intersection entre un style vraiment chinois, d'inspiration chinoise à travers les thèmes qu'il met en avant, donc la montagne, le sommet notamment, et en même temps l'influence occidentale, hein, européenne qu'on retrouve dans son art. Donc l'expo montre une série de tableaux qui représentent des paysages locaux et également des grands rouleaux de calligraphie. Donc tout ça est exposé dans l'église romane de Salagon.
Les paysages locaux, mais ce n'est pas non plus du figuratif.
Exactement. L'idée, c'est absolument pas de représenter les paysages locaux tels quels dans un souci de réalisme et d'être fidèle. Donc c'est pas de la reproduction, mais vraiment dans une vision chinoise, ça va être de faire un peu rejaillir l'énergie vitale qu'on peut ressentir quand on regarde tous ces paysages et toute cette nature et toutes ces immensités.
Quel paysage précisément, de quel paysage s'est-il inspiré ?
Des paysages du pays de Fort-Calquier, du plateau de Valensole, des alentours de l'Urs et également des Hautes-Alpes de la région de Briançon.
Et vous me parliez tout à l'heure aussi d'une inspiration de la calligraphie pour arriver au paysage et aussi de la présence de l'eau, de la montagne. Dans une tradition chinoise, vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Alors, dans l'exposition, on retrouve des rouleaux grand format qui sont inspirés de la calligraphie. C'est pas des rouleaux de calligraphie tels quels avec des caractères chinois bien identifiés. Mais ce sont vraiment des œuvres d'art et qui s'inspirent de la calligraphie. Et alors, dans l'expo, on retrouve beaucoup le thème de la montagne, hein, dans ces représentations, dans ces tableaux. Parce que c'est un grand thème de la peinture chinoise, de la peinture de paysage. Peinture de paysage qui est elle-même dominante dans la peinture chinoise depuis le Moyen-Âge. Et donc le sommet, hein, le thème de la montagne, se retrouve dans toute l'histoire de l'art de la peinture chinoise. Et donc Feng a en fait repris ce motif de la montagne, mais en l'adaptant à son propre style et en même temps en faisant écho aux paysages locaux. Donc la montagne, le cours d'eau, ça a toute une signification spirituelle, symbolique. En Chine, on retrouve le thème du yin et du yang, de l'énergie, sachant que les deux thèmes, la montagne et le cours d'eau, sont complémentaires et réciproques.
Il y a aussi une présentation spécifique à cette exposition ?
Oui, alors dans l'église, ces tableaux vraiment grand format, dans cette église romane avec les vitraux rouges d'Aurélie Nemours, la couleur de la pierre, enfin, c'est vraiment particulièrement harmonieux et c'est une église quand même assez grande. Et le fait d'avoir ces grands tableaux, ça les met particulièrement en valeur. Et on retrouve l'évolution de ces paysages au fil des saisons également. Donc ça, c'est un des fils conducteurs de l'exposition aussi, de montrer comment ces paysages évoluent au fil des saisons. Et puis comment notre perception aussi évolue à partir de ce mouvement permanent.
Il y a aussi une salle à côté de cette exposition avec un dispositif de vidéo.
Voilà, donc en complément de l'exposition qui est dans l'église romane, hein, on retrouve dans une salle à côté de l'église un film qui a été réalisé par une vidéaste et photographe qui s'appelle Marie Calme, qui est à Fort-Calquier, où on retrouve l'artiste dans son atelier, son inspiration, ses techniques de peinture, et une série aussi d'amis ou de spécialistes ou de gens qui le côtoient, qui apportent des témoignages et des éclairages sur son œuvre. Et également, dans cette salle, on retrouve aussi une biographie de l'artiste. Et un livret d'exposition est donné gratuitement et accompagne le visiteur.
Le majoral Michel Benedetto présente le site de Ganagobi.
C'est un voyage historique et patrimonial que nous propose le majoral du Félibrige, Michel Benedetto. Chris Alessandri lui a consacré une belle émission disponible sur notre site de Sisteron. Et comme un avant-goût, je vous propose d'en écouter un extrait. Michel Benedetto présente ce plateau chargé d'histoire et où se trouve le célèbre prieuré. Son éclairage d'historien et de bâtisseur est captivant. Suivons le guide, Michel Benedetto.
Ah ben, c'est déjà situé, Ganagobi, on est sur le plateau de Ganagobi, un haut lieu de la Haute-Provence, de la Provence, avec cette vue magnifique sur la Durance. C'est un lieu de paix, aujourd'hui c'est un lieu de prière aussi, c'est donc un lieu de silence. On est 300 mètres au-dessus de la Durance, on a une vue, et voilà, là je vous regarde, mais au fond je vois donc la Sainte-Victoire, je vois donc toute la Haute-Provence aussi, de l'autre côté, les Alpes, donc on a un peu le sentiment d'être un peu comme un oiseau sur un perchoir, ou dans un nid d'aigle tout simplement. Sur ce lieu, on est sur donc une dalle calcaire donc de Montlas qui fait 1,5 km de long pour à peu près 1 km de large, au-dessus d'une couche géologique d'argile, qui fait que donc ce calcaire qui est poreux par sa structure, puisqu'il est faillé, eh bien, a toute l'eau qui s'arrête donc 30-40 mètres au-dessous de la croûte calcaire sur les couches d'argile. Ce qui veut dire que sur ce plateau à 300 mètres au-dessus de la Durance, on descend d'une petite cinquantaine de mètres donc du plateau et il y a des sources. Donc déjà, l'eau qui dit eau, dit vie, en tout cas pour les hommes. Donc à la préhistoire, ce lieu donc qui est bordé sur 360 degrés de falaise, c'est-à-dire c'est une forteresse naturelle, eh bien l'homme depuis la préhistoire vient s'y reposer après la chasse, et puis à d'autres époques, ben, y être protégé de l'envahisseur, qui en plus voit venir de loin. Quoi, voilà. Ça c'est déjà cette notion de dire c'est un lieu qui a toujours été, je dirais, un lieu béni quoi pour les hommes. Moi je vous propose de monter donc en direction, pas directement du centre que tout le monde va voir, puisqu'on quand on vient à Ganagobi, on va incontournablement vers le monastère, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, parce que justement on ressent cette universalité que la nature a sur des personnes qui ont envie de se poser, et puis peut-être de s'élever aussi sur un plan spirituel, mais simplement se reposer, trouver le silence et les énergies de la nature. Je vous propose de remonter plutôt vers la partie ouest du plateau, parce que c'est là où il y a donc des vestiges, entre autres ceux des villages gaulois. Je vous proposais de monter voir ce qui reste du vieux village donc de Ganagobi, le village médiéval qui s'appelait Villevieille. Bon, c'est comme ça qu'il a été nommé après qu'il soit abandonné. Ce village-là donc il comporte donc un rempart magnifique de 120 mètres de long, qui a été dégagé dans les années 90 quand les moines sont revenus occuper le plateau, qui laisse donc montrer un rempart nu avec un appareillage très typique de l'époque, c'est-à-dire donc 12e siècle à peu près. Et une porte qui a été reconstituée, moyennement, je dirais, parce que moi qui suis fils de tailleur de pierre, je pense qu'on n'a pas bien remonté ça, mais bon, ça c'est bon. Mais ceci a le mérite d'avoir été remonté. et derrière une cinquantaine donc de vestiges d'habitations qui ont été détruites à une époque sombre de la Provence, qui est celle ce qu'on appelle donc des guerres de grande compagnie, c'est-à-dire c'est à la fin de la guerre de Cent Ans, c'est le 15e siècle où on a gagné contre les Anglais, tout le sud-ouest de la France, l'ouest de la France est dévasté, ruiné, 100 ans de guerre contre les Anglais, et pour que les seigneurs résistent, on a fabriqué, on a entretenu, on a créé des compagnies de mercenaires. Et ces mercenaires, ils vont se constituer en armée de mercenaires pendant un siècle, c'est-à-dire de père en fils, en petit-fils, et même plus. Et qui vont vivre que de ça, c'est-à-dire de faire la guerre, et puis d'un coup, il n'y a plus de guerre. Donc on se retrouve avec des armées constituées, qui étaient payées mercenaires, et qui sont complètement à l'affût de travailler, donc d'un endroit où il y a la guerre, mais il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir dans les pays qui n'ont pas été soumis à la guerre, qui sont riches. Et un des pays les plus riches de l'époque, c'est le Midi de la France. Donc ils vont venir sur le Languedoc-Roussillon et surtout sur la Provence. Et ils vont mettre la Provence à sac pendant des décennies, au moins 30 ans. Et à sac, là on a un exemple, ce village va être détruit à cette époque-là. Donc là il y a des mémoires qui doivent être très difficiles, parce que ça n'a pas dû se faire dans la douceur. Certainement des lieux de massacre. Et les gens ne réhabiteront plus là. Donc là c'est un lieu qui à la fois sur un plan archéologique, historique et magnifique, on ne se rend pas, on s'y croit, il n'y a pas une antenne, on ne voit que des pierres. Et donc cette entrée, il y a ce côté un peu sauvage. Devant, il est flanqué donc d'un ouvrage qui est une ancienne église, c'est-à-dire qu'elle a été construite après. Il devait y avoir certainement une église castrale à l'intérieur, dont on n'a pas les traces aujourd'hui. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que sur le plan énergétique, on voit où sont ce qu'on appelle les hauts lieux, donc ces endroits où à la fin de l'époque, florissante donc du village de Villevieille. Et un chemin pour y aller, il y a une chapelle que le randonneur pourra trouver, qui est donc ce qu'on appelle un ermitage. Dédicacé à Saint-Martin, pour d'autres à Saint-Étienne, il y a quelques contradictions. C'est une petite chapelle, toute simple, avec une nef unique, mais avec un petit habitat devant, qui était celui de l'ermite, qui fonctionnait, comme souvent c'était le cas, et avec un des ermites qui avait des vertus, quand même, qu'on oublie aussi, c'était celle donc de soigner les gens. Il était à la fois éloigné, donc il vivait en ermitage, mais il avait des vertus aussi, donc il vivait peut-être la repentance, il vivait donc une vie encore plus solitaire, puisqu'il n'était pas dans la communauté. Sa position aussi faisait que souvent ils étaient réputés pour être des guérisseurs. Ils ne vivaient pas forcément tout seuls. C'est un haut lieu aussi, il y a une très forte énergie sur ce lieu-là, donc cette petite chapelle dont il reste les bases sur à peu près 1 mètre, 1 m50 de hauteur. Pareil, de la même époque, donc d'architecture romane.
Michel, nous sommes sur un lieu où visiblement nous avons des supports naturels ici au milieu de ces magnifiques chênes. Nous avons ces rochers qui semblent avoir accueilli.
Alors oui, c'est le terme, accueilli et aussi protégé, puisqu'on est sur le plateau et malgré tout on trouve un petit plateau à l'intérieur, donc qui est au-dessus de 2 mètres, mais qui a été exploité manifestement de façon attestée à l'époque gauloise, puisque là à l'intérieur, au-dessus de ce petit promontoire, donc il y a les vestiges d'un ancien village gaulois qui a été fouillé dans les années 50, et comme l'homme a toujours été dans cette notion d'économie, donc de l'effort, à l'époque on n'avait pas des grues, on n'avait pas des engins énormes, et bien là ils se sont servis de cet éperon donc pour au-dessus, à l'aplomb, monter des petits remparts, qui peut-être à l'époque gauloise étaient aussi faits de palissades, il faut savoir que le bois était beaucoup utilisé. Donc, comme on est sur le rocher, je pense, et qu'il y a de la roche partout, je pense que c'était plutôt donc un rempart en pierre bâti, et derrière lequel donc on bénéficie déjà de 2 mètres de hauteur du rocher, on remet encore 3 mètres de hauteur. Ça faisait un rempart de 5 mètres de hauteur. Le Romain qui voulait venir là, il fallait déjà sauter par-dessus pour pouvoir rentrer dans ce village. Donc ça ne s'est pas fait dans la douceur partout, quoi. Donc c'est des lieux qui sont très chargés de mémoire et des fois difficiles.
On se quitte, François, vous avez un communiqué de presse important.
Oui, tout à fait, on est en pleine saison de ski actuellement, vous l'avez remarqué, bien sûr. En plus, un croisement de vacances scolaires, donc il est important de rappeler certaines règles et c'est de manière très pertinente que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, Violaine Desmarais, a souhaité appeler tous les pratiquants d'activités physiques hivernales à la plus grande prudence. Montagne, grands espaces, neige, vierge, synonymes de liberté, de plaisir et de sensations grisantes, ils peuvent être également des sources d'accidents. Malgré la mobilisation de l'ensemble des acteurs et l'amélioration constante de la sécurité sur les domaines skiables français, environ 45 000 interventions des services de secours ont lieu chaque saison, signale la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, et la plupart de ces accidents pourraient être évités si les conseils de bonne conduite étaient mieux connus et bien respectés. L'enjeu, bien sûr, adopter les bons réflexes pour glisser en toute sérénité. Sur les pistes, tout d'abord, l'équipement doit être adapté. Un casque et des fixations réglées par un professionnel lors d'une descente à ski. Échauffez-vous, bien sûr, avant de commencer une activité physique et choisissez des parcours adaptés à votre propre niveau. Contrôlez votre vitesse, soyez vigilant lors d'un dépassement et maîtrisez vos arrêts. Et puis également, en randonnée, vérifiez les conditions météorologiques, l'enneigement et les risques d'avalanche avant votre départ. Et gardez à l'esprit que ces facteurs peuvent rapidement évoluer. L'équipement doit être adapté. Prévoyez un triptyque DVA, pelle et sonde. Avant de partir en randonnée, que ce soit à ski, à raquette ou à pied, informez vos proches de votre itinéraire et de vos heures de départ et d'arrivée. De plus, les conditions météorologiques restent instables. Actuellement, le faible enneigement rend les pratiques hivernales plus difficiles, en particulier avec le risque d'apparition de plaques de verglas. Le département des Alpes-de-Haute-Provence, par exemple, était placé par Météo France en vigilance jaune avalanche le 14 février 2022 et cela risque de perdurer même après la fin de l'alerte. Voilà donc des informations qui tombent à pic, c'est le cas de le dire, pour toutes les personnes qui souhaiteraient passer un moment agréable dans nos belles montagnes des Alpes du Sud. C'est la fin du magazine. Merci beaucoup Olivier pour la régie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine François.